Ensuite, numéro 3, nous avons le compte-rendu des décisions prises par le bureau et par le président. Et là, vous avez 9 pages de décisions qui ont été prises. Heureusement qu'on a voté le budget, parce que vous voyez les blocages administratifs et d'investissement qui auraient été faits si nous n'avions pas voté le budget. Et je vais demander, sur le numéro 3, de dire quelques mots sur deux décisions, le développement économique, emploi, formation et emploi, insertion. Teddy, si tu veux dire quelques mots sur ces deux sujets, très rapidement.
Sur la desserte, hein, c'est ça ?
C'est le bâtiment d'activité de Val d'Isère.
Ah oui, ah non, bah, je n'avais pas prévu de parler de ça. Vous voulez que je parle de...
Normalement, c'est une décision, mais c'est pour informer quand même nos collègues.
Oui, sur la vente d'un bâtiment à Val d'Isère, un bâtiment qu'on avait racheté à la commune, un bâtiment qui était dans un état, qu'il était temps de vendre, on va dire ça comme ça. Et donc, on a trouvé un acquéreur, donc on a décidé de vendre ce bâtiment. Et je l'expliquerai tout à l'heure un peu plus longuement, mais voilà, l'objectif de la politique, c'est aussi de faire tourner le parc immobilier pour réinvestir demain dans de nouveaux ateliers relais. Donc il est important aussi de savoir se séparer de temps en temps de biens qui vieillissent. Donc en effet, ça fait partie des décisions que vous avez signées.
Et le 5, c'est une information. Alors, c'est décision du président, hein,
oui,
mais c'est simplement
5,
pour informer. Ensuite, oui.
Le 5, j'ai pas les éléments. C'est pas forcément moi qui suis de près ça.
Mais la page 8.
Peut-être que Nathalie a un peu plus d'informations.
Tu veux dire un mot, Michel ? D'accord. C'est une information.
Pardon, juste le 5, c'était l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour équilibrer les comptes
d'accord.
de l'association.
Alors, le numéro 4, c'est le compte-rendu des décisions prises par moi-même. C'est 9 pages, mais comme il y a 2 ou 3 points qui méritent une attention plus particulière, je voudrais revenir sur ces 2 ou 3 points en demandant à mes collègues. Il y a l'aménagement et l'extension du centre de ressources, c'est avec la médiathèque, l'Artothèque. Vous avez les travaux d'assainissement, les travaux d'investissement de la voie ferrée, entre Vitré et la zone d'activité de Gérard à Montreuil, et la cession des masques. Sur la cession des masques, un mot, monsieur. Qu'est-ce qui aborde le problème de la cession ? Oui.
On va commencer par le fret, comme ouais, on a d'accord. à l'écran le PowerPoint. Donc le sujet dont on va vous parler, c'est un sujet important pour une entreprise, mais aussi important pour le territoire, puisque vous allez voir les impacts que cela pourrait engendrer si on ne faisait pas ces investissements. On a une entreprise située dans la belle commune de Montreuil, sous Pérouse, au lieu-dit Gérard, qui s'appelle la Coperle. On va avoir quelques photos de l'embranchement. Donc c'est sur la zone d'activité de Gérard. Et donc la Coperle bénéficie d'un embranchement direct, que vous voyez ici, sur le réseau ferré de la SNCF. C'est l'ancienne, pour ceux qui ont connu, moi je ne l'ai pas connu, mais l'ancienne ligne de voie de chemin de fer qui permettait d'aller à Fougères, dans une autre époque, mais qui aujourd'hui ne dessert plus que la Coperle. Sauf que cette ligne, elle vieillit, elle s'abîme, et aujourd'hui, il est nécessaire de refaire d'importants travaux si on ne veut pas que la desserte ferroviaire s'arrête, alors qu'elle permet, vous allez le voir, à la Coperle, si on regarde les flux de circulation vers Gérard, on va peut-être passer ce tableau-là, de desservir de nombreuses régions de la France, en partant du site de la Coperle. Si vous regardez sur la slide suivante la répartition du transport de la Coperle, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est 32% en fait du tonnage qui sort de la Coperle qui est fait avec cette liaison ferroviaire. Et ça permet d'éviter 7240 camions de 29 tonnes par an. Donc, ce qui est quand même relativement important sur un site qui reçoit déjà 15345 camions par an de 29 tonnes. L'objectif, si on rénove cette ligne, ce n'est pas forcément de rester sur ces pourcentages, mais c'est d'essayer de développer le potentiel du fret et de passer petit à petit à un pourcentage de 53%, soit donc un potentiel de 350 000 tonnes et donc 250 trains par an, donc ce qui est quand même important, et donc du coup de devenir majoritaire dans les flux qui sortent de la Copperl et de privilégier donc plutôt le fret à terme. Mais pour ça, il faut investir et ça représente, vous allez voir, rapidement beaucoup d'argent. Alors, c'est quoi les investissements nécessaires? Si on passe à la slide suivante. C'est le remplacement des rails, le remplacement des traverses, l'adjonction de ballast, le changement d'un appareil de voie, curage, reprofilage des fossés, la pose de collecteur central zénithal, reprise de PRA et avec un planning à horizon 2020-2021. Tout ça pour assurer une pérennité des voies de chemin de fer à une vitesse de 40 km/h. Alors, l'investissement nécessaire dans un premier temps, c'est 1 million d'euros. Donc vous voyez que c'est important. Donc il y a eu plusieurs réunions d'échange avec les différents partenaires qui pouvaient investir, je dirais, dans le maintien de cette voie ferroviaire. Et donc il y a un accord qui a été trouvé, qui n'a pas été simple, mais qui a fini par être négocié, avec une participation de 40% de l'État, 40% de la région, ce qu'on peut saluer quand même, c'est cette intervention. Nous à hauteur de 10%, la Copperl à hauteur de 5% et SNCF Réseau à hauteur de 5%. Et donc ce qui vous est proposé ce soir, du coup, c'est de valider ce plan de financement qui est détaillé avec un planning prévisionnel sur la slide suivante, voilà, avec les financements 2020, 2021, 2022, avec 20 000 euros en 2020, 75 000 euros en 2021 et 5 000 euros en 2022. J'ai essayé d'être synthétique. Dans un contexte de développement durable et de sujets qui arrivent sur la table, je crois qu'il paraît difficile aujourd'hui de ne pas soutenir ce projet de fret, même si on peut toujours se poser la question du rôle de Vitry Communauté et pourquoi pas la Copperl plus, ou pourquoi pas l'État plus, ou pourquoi pas la SNCF, puisque la SNCF finalement ne met pas tant que ça, mais c'est vrai que les négociations ont été difficiles et on peut souligner que la région a bien pris le relais là-dessus en montant à hauteur de 40%.
Monsieur le maire de Montreuil, qu'est-ce que tu as ajouté? Si nous n'avions pas fait ça, le risque, c'était de voir une partie du transport passer sur camion. Ça n'aurait pas été dans le sens très positif sur le plan environnemental.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, il y a 20 ans, on avait mené une grosse opération.
Vous entendez bien en haut? D'accord.
Oui, c'est nous qui entendons les moins bien. On a des retours là qui ne sont pas bons. Une grosse opération pour raccorder la Copperl, faire donc ce qu'on appelle un embranchement ferroviaire. Ça avait coûté un peu de sous à la commune. Et puis, à l'époque, je crois que c'est la Copperl qui avait tout payé, l'embranchement, sauf une participation de la commune. Donc aujourd'hui, c'est évident que la Copperl ne peut pas se passer du train. Quand vous voyez les flux, faut savoir que c'est un nombre de camions extrêmement important qui arrive tous les jours. Alors, ce n'est pas les flux sortants, ce sont les flux entrants, puisque ce qui sort ressort tout en camion, puisque, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'exploitation et d'élevage raccordés aux rails, mais ce sont les matières premières qui rentrent à la Copperl, qui viennent par le train pour partie, et ils repartent ensuite par camion. Donc voilà, c'est absolument indispensable de garder le rail à Montreuil, voilà, sur le site de Gérard pour la Copperl.
Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce plan? Simplement, j'ajoute une chose vis-à-vis de la nouvelle équipe. La bataille du rail n'est pas terminée parce que en 2021, la SNCF renouvelle les arrêts TGV. Pour nous, c'est vital. Pour les TER, pas beaucoup de difficultés. La difficulté que nous ressentons, c'est que sur la communauté d'Aglo, nous avons 45 000 emplois pour 45 000 actifs. Et malgré ça, il y a trois secteurs, Châteaubourg, deux secteurs et La Guerche, qui ont été rattachés à la zone d'emploi de Rennes. C'est un débat que nous avons avec l'INSEE, qui est sérieux parce que ça ne correspond pas aux réalités. Donc c'est un débat que vous aurez dans les deux ans sur les arrêts TGV, mais c'est pour nous et pour les entreprises un élément vital. S'il n'y a pas de questions autres sur cette ligne, Je vais donner la parole à Pierre Brault sur le dossier de l'Artothèque.
Alors, sur le dossier
de Marie-Cécile Duchesne n'étant pas là.
Non. Sur le dossier de l'Artothèque, on va d'abord faire un petit peu d'histoire, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux qui n'ont pas cette histoire. En 2018, on a abouti à un accord pour transférer la compétence lecture publique à l'agglomération, avec un centre de ressources art et lecture publique qui est celui de la médiathèque de Vitré. Parallèlement, on a eu une opportunité de financement assez intéressant, vous le verrez après dans la présentation, pour agrandir la médiathèque et accueillir l'Artothèque et réunir ainsi les deux maillons de ce transfert de compétences à la communauté d'agglomération. Tout ça a été discuté en commission locale d'évaluation des transferts de charges. Il y a eu des réunions de négociation. La ville a gardé à sa charge une partie, a transféré, je dirais, la charge du fonctionnement de la médiathèque. Mais comme on avait à peu près 40% de la population qui fréquentait la médiathèque qui n'était pas vitréenne, il y a eu un accord de trouver et un découpage. Donc la ville a transféré à l'agglo tous les ans une partie du coût du fonctionnement de la médiathèque. Maintenant, c'est comme ça, dans la location compensatrice. Et puis, l'agglo, considérant qu'il n'y avait pas 100% de vitréens à fréquenter la médiathèque, eh bien, a laissé à la ville une partie de ce qui était le fonctionnement global, puisque depuis quand même que cette médiathèque existe, la ville payait seule pour tout le monde. Aujourd'hui, on est en phase avant-projet définitif de ce projet d'extension, qui n'est destiné, je le rappelle, qu'à réunir médiathèque et artothèque sur un même bâtiment. Et on est à la phase APD avec un calendrier qui a été un petit peu décalé, je ne vous dis pas pourquoi, vous en doutez tous. On attend, mais pas tant décalé que ça, on attendait un avant-projet définitif pour le mois de février 2020, on l'a eu le 5 mars. On attend un dossier de consultation des entreprises pour le mois de juin, on l'aura en septembre, donc on décale, on retrouve les deux mois de décalage. Et le début des travaux qui était prévu en septembre pour une livraison en mai devrait connaître un décalage également de 2-3 mois. Sur ce qui est la partie technique, je vais laisser la parole à Daniel Gauthier qui va vous présenter un petit peu en quoi consiste cette extension, comment elle est conçue, etc.
Donc l'extension elle est située à l'est de la médiathèque. Comment elle fait donc les dimensions, la 12 par 19 sur deux niveaux. Donc au rez-de-chaussée, on a l'accueil. Il y a un pointeur sur celui-là. L'accueil est ici, l'entrée, donc elle est conservée pour avoir un accueil mutualisé. Et quand on rentre dans cet espace qui aujourd'hui pour les jeux vidéo, on va réaménager l'espace et on fait une ouverture sur l'extension. Donc dans l'extension, on a une zone de 120 mètres carrés pour l'Artothèque où seront exposées toutes les œuvres de la collection. Ensuite, on a une réserve spécifique aux œuvres qui ont une valeur patrimoniale et financière, des locaux techniques. Donc la liaison avec l'existant, c'est ce passage-là. Donc ensuite, à l'étage, on a un vide sur l'Artothèque, on va le voir tout à l'heure sur les coupes. Et là-haut, on a une salle de pause pour le personnel, ce qui va permettre de libérer la salle aujourd'hui qui est entre salle de pause et salle de travail. Donc on va pouvoir créer trois emplacements pour du personnel en plus. Et là-haut, il y a l'espace éducatif qui est une salle aménagée pour l'accueil des groupes. Donc c'est un espace qui va servir autant pour la médiathèque que pour l'Artothèque. Et à l'étage, donc il y a le passage vers l'espace des arts. On crée une ouverture également. Donc on voit sur les coupes, on a l'Artothèque donc, qui est sur deux niveaux en fait. C'est une pièce qui est complètement enterrée et qui sera éclairée. On voit ici, il y a un bandeau de tout un bandeau de fenêtres à l'étage pour l'éclairage, parce que de toute façon l'artothèque ne peut pas avoir un éclairage direct à cause de la préservation des œuvres. Donc là c'est les façades, donc l'entrée principale ici, on voit l'extension là juste au-dessus du mur en pierre existant, le mur de soutènement. En dessous, c'est la façade côté parking. Ça, c'est la vue à l'est. C'est bon ? Voilà. Et là, c'est une insertion paysagère avec... donc, on voit ici l'extension.
Merci. L'aspect culture, on va en discuter tout à l'heure dans les fonctions, est importante pour Vitré. Que ce soit les médiathèques, que ce soit bien sûr le conservatoire, les activités d'art plastique. Et là, c'est un peu une extension qui prendra quelques places sur la gare nord, sur la partie nord de la gare. Merci. Est-ce qu'il y a des observations sur ce plan ? Ensuite, une diapo sur le financement. Vous voyez très vite. L'aurait-on fait si on n'avait pas eu cette subvention importante ?
À l'extrême gauche, vous voyez ce qui avait été prévu début 2019. Au milieu, ce qui a été budgété au budget 2020 de l'agglo. Aucune subvention n'avait été inscrite puisqu'on n'était pas sûr de les avoir. Je rappelle que ce genre de projet est soumis à l'accord de la DRAC pour être subventionné, etc. Et à droite, ce que ça donne au final avec l'avant-projet définitif. Vous voyez que sur un autofinancement résiduel qui devait rester de 123 840 euros, on est passé à 177 824. Et dessous, vous avez les coûts supplémentaires. L'ABF a imposé un bardage métallique autopatinable qui nous coûte un petit peu plus cher. Les fondations sont des fondations qui connaissent un petit surcoût parce que c'est un site qui est remblayé. On est sur du remblai. Donc il faut aller chercher le dur un petit peu plus bas. À l'étage, comme va y avoir des enfants à l'espace éducatif, les équipes ont demandé à ce qu'il y ait une verrière pour prévenir tout risque de chute d'un enfant dans le vide et la révision de prix, quoi. Mais c'est quand même une opération qui est subventionnée à 76% de l'investissement. Et je voulais juste te dire qu'il n'y a pas trois personnes de plus, il y a trois postes de travail en plus. Parce qu'aujourd'hui, ce qui sert de locaux sociaux à la médiathèque, ça sert de locaux sociaux le midi et de postes de travail autrement. Donc là, on spécialise simplement dans le nouveau local une salle pour le personnel. Et les postes de travail du rez-de-chaussée de la médiathèque ne serviront plus que pour le travail. Voilà.
Est-ce qu'il y a un vote ? Non. Donc, c'est une information parmi les 9 pages. Et la dernière information, c'est les masques, rapidement. Parce que Bernard ?
Allô, oui. Les masques, oui, quelle histoire, hein. Rappelez-vous, c'était il y a 3 mois, c'est-à-dire une éternité quasiment. C'est vrai qu'à l'époque, la réglementation était très évolutive. Elle l'est toujours, d'ailleurs, hein. Mais Vitré Communauté, à l'époque, avait voulu assumer son rôle et soutenir les communes en groupant les achats de masques. Les livraisons, ensuite, ont été très, très fractionnées, voire tardives aussi, hein, alors que les attentes étaient fortes dans nos communes. Les mairies étaient aussi sous pression. Les nouveaux maires n'en sont peut-être pas rendus compte, mais c'est vrai que la pression était forte. Et je dois dire aussi qu'au niveau Vitré Communauté, la pression était parfois forte, n'est-ce pas, Myriam, quand il a fallu gérer tout cela. Donc en deux mots, donc il y avait deux types de masques, hein, les masques à destination des habitants, les masques lavables. Alors là, je vois juste l'aspect financier. Hein. Pour les communes, il a été commandé donc 57 000 masques, vous l'avez là, plus ce qu'a commandé Vitré Communauté pour son personnel. Le coût moyen de ces masques, parce qu'il y avait trois fournisseurs différents, donc là on reprend seulement le coût moyen, c'était 2,86 en TTC. L'État a versé une subvention. Mais elle a annoncé 50%, mais en fait, ce n'était pas 50%, parce que c'est 50% d'un certain montant. Et comme le montant n'était pas élevé, ça fait beaucoup moins de 50%. Donc, le coût moyen net de subvention, c'est 2,13 € en TTC. Et ce que l'on propose, c'est donc ce qui a déjà été proposé à l'époque, c'était que Vitré Communauté prenne en charge 50% de ce coût et 50% en charge des communes. Voilà. Ce qui, globalement, vous avez les chiffres à l'écran, ça fait donc un investissement global de 165 000 euros, 42 200 de subventions, donc un coût net de 123 000, et un reste à charge pour Vitré Communauté de 61 568, plus les masques pour son personnel également. La deuxième série de masques, c'était les masques pour les agents, donc c'était les masques jetables qui avaient été fournis par le conseil départemental, qui avait pris comme référence le nombre d'habitants par communauté de communes ou d'agglomération. Donc pour Vitré Communauté, nous avons donc bénéficié de 82 731 masques, c'est très précis, hein, c'est le nombre d'habitants de Vitré Communauté. Donc c'est le nombre d'habitants qui a servi pour calculer le nombre de masques. Et ensuite, ces masques-là servaient aussi pour les agents de nos communes, mais aussi pour les agents de Vitré Communauté, mais aussi pour les agents des différents syndicats autour de Vitré. Donc le critère de répartition ensuite au niveau des communes, c'était le nombre d'agents qui travaillent pour nos communes. Donc voilà, vous avez les chiffres, 64 800 masques ont été distribués aux communes. Le coût unitaire était 0,70. Le conseil départemental prenait en charge 50%, il restait donc 0,35. Et Vitré Communauté propose de prendre la totalité du solde, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de participation financière demandée aux communes pour ces masques-là. Voilà. Ce qui, globalement, si on cumule les deux séries de masques, fait donc un coût pour Vitré Communauté de 90 524 euros.
Merci. Y a-t-il des questions sur cette partie des masques qui a été compliquée? Oui, Madame Le Callennec. Le micro, rapidement.
Merci Anas. Oui, j'ai une petite question. À la page 17, il y a, vous savez, la convention qui a été signée entre Vitré Communauté et la région pour le fonds Covid Résistance. Les entreprises pouvaient donc soumissionner à ce fonds depuis le 15 mai, de mémoire. Je voulais savoir si vous saviez si des entreprises avaient déposé des dossiers, puisque ça transitait par la BPI et ça arrivait après à la région, qui analysait les demandes. C'était a priori fléché vers des entreprises de moins de 10 salariés. Est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des entreprises de Vitré Communauté qui ont déposé des dossiers?
On le sait, il y a deux entreprises seulement. Voilà, donc c'est très peu. Nathalie peut peut-être rajouter. Ah, quatre. Bon, on est passé à quatre. Alors voilà. J'avais deux au dernier pointage.
De moins de 10 salariés.
On est à 4 sur les entreprises de moins de 10 salariés.
Il y a uniquement quatre entreprises. Une entreprise de Louvigné de Baie, une de la Garge-Bretagne, une de Vitré et une de Baie.
Et on taira bien sûr les noms de ces entreprises.
Voilà. Essentiellement dans le commerce ou dans... Non, artisanat et commerce et restauration.
Est-ce que la date limite est passée là? Non. On peut encore déposer aujourd'hui?
On peut encore déposer et donc on va refaire une communication en s'appuyant justement sur ces entreprises-là, si elles le souhaitent, pour pouvoir renforcer la diffusion de l'information. La région s'étonne beaucoup elle-même de ce faible taux de demande, puisqu'au total, sur la région, on est à 170 dossiers déposés par les entreprises. A priori, il y aurait eu un problème technique sur la plateforme de dépôt des dossiers. Ça n'a pas dû encourager les entreprises à déposer leurs demandes, mais c'est résolu désormais. Et donc les entreprises peuvent encore déposer jusqu'au 30 septembre, puisqu'on est bien sur une mesure d'urgence.
Nous avons participé à ce fonds à 25%, le département à 25%, la région à 25% et la Banque des Territoires à 25%. L'ambiguïté pour les entreprises artisanales et commerces, c'est de savoir si c'est un prêt ou si le prêt deviendra demain une subvention. Lorsqu'on avait eu un débat avec le président du conseil régional, il dit qu'il y aura 50% de retour et probablement 50% de subvention. Mais normalement, ce sont des prêts, mais qui peuvent devenir, compte tenu des situations des entreprises, peut-être en partie des subventions. Donc voilà, il y a une faible demande au niveau de la Bretagne. Quatre sur le pays de Vitré, donc vous pouvez informer vos collègues. Est-il d'autres questions, Bernard?
Ce qui est important, et je le dis là au maire présent, c'est d'aller voir vos entreprises, vos commerçants, vos artisans, de parler de ce fonds et surtout qu'ils n'hésitent pas à contacter les services de Vitré Communauté aussi pour que nous, on les accompagne s'il faut ou qu'on les oriente en tout cas vers les bons guichets. Mais voilà, c'est à vous aussi d'être les relais, hein, et de faire cette démarche-là, d'aller les voir, parce que nous, de Vitré Communauté. On ne peut pas forcément tout voir, tout sentir sur ce qui se passe sur le terrain. Vous êtes les mieux à même, je dirais, de nous remonter de l'information. Donc voilà, on compte aussi un peu sur vous pour nous aider.
Merci. Pas d'autres questions. On passe au principal sujet de la soirée, le budget primitif. Dans le budget primitif, je présenterai par souci pédagogique. Dominique, pardon, excuse-moi. Ah oui, vas-y.
Ça marche ? Oui. Alors, c'est pas une question, c'est juste. Je tenais, en tant qu'ancien maire, à féliciter et remercier les services de Vitré Communauté pour tout le travail qu'ils ont fait pour approvisionner nos communes en masques. C'était pas un dû, c'était pas quelque chose qui était obligatoire, c'est pas un service qui était obligatoire. Et on s'est pas toujours rendu compte au niveau de nos communes du travail que ça a représenté pour garantir cet approvisionnement, tant en qualité qu'en quantité, et surtout de tenir les délais qui nous avaient été donnés. Voilà, bah je tenais à féliciter une fois de plus les services de Vitré Communauté, toutes les personnes qui ont passé du temps, beaucoup de temps et d'énergie pour répondre aux besoins de nos communes rurales.
Merci Dominique. Je présenterai 8 tableaux pour tous les nouveaux pour bien voir où est la situation financière, économique de Vitré Communauté en comparant avec les autres territoires de Bretagne. Et ensuite, Bernard passera les détails pour les votes. Et enfin, le service financier de l'État nous dira quel est son jugement sur la vitalité et la situation budgétaire. Il y a une délibération, oui, après. Sur
le maintien des délégations.
Ah oui, allez-y.
Alors,